Et nous reprenons pour cette troisième partie de Radio Rollist avec moi-même qui donc je vais parler de Bimbo.
Ah. Oh.
Bimbo, donc c'est un jeu de Grégory Privat qui est paru aux éditions Sans Détour. Je sais pas pourquoi j'aime bien les éditions Sans Détour en ce moment. Il se présente sous la forme donc d'une boîte en carton épais qui contient trois livrets, les règles, les conseils du MJ et les scénarios. Il y a aussi 3 dés à 6 faces, il y a une feuille de personnage à photocopier. Et il y a 2 paquets de cartes, l'un pour ce qu'on appelle les plans cinématographiques et l'autre pour les clichés. Alors, c'est deux concepts dont je vais parler dans quelques instants. Le fait qu'il y ait des cartes, bon, je suis pas persuadé, mais de toute façon, je vais vous en parler. Donc, la boîte elle-même, elle est très très belle, elle tape bien. Il y a des illustrations un petit peu partout qui donnent bien le style du jeu. Et le style du jeu, je vais en parler tout de suite, c'est un hommage aux films de série Z, des films dits de Grindhouse, très petit budget, des années 70 à 80. Dont les récents Planète Terror par exemple de Tarantino et Machete sont les dignes représentants. Vous voyez un petit peu à quoi peuvent ressembler ces films, de la violence, du sexe, des films brûlés et pas du tout d'argent. Bon, je parle rapidement de la qualité de fabrication elle-même. Le carton de la boîte, il est un peu moins épais que ce que je pensais au départ, donc c'est un petit peu souple. Et par contre, le pelliculage d'un des livrets a commencé à se barrer après seulement quelques heures de transport dans mon sac à dos. Donc sans soin particulier, mais sans que je fasse n'importe quoi, tu vois, j'ai pas jeté le sac à dos par terre, et quand j'ai pris le bouquin, il y avait le pelliculage, donc espèce de vernis qui est dessus, si tu veux, en plastique, qui s'est barré. Donc sans détour, donc j'en ai parlé à Grégory Privat d'ailleurs sur Facebook, il m'a conseillé de voir avec Sans Détour. Il y a un adresse mail de Sans Détour qui s'appelle SAV Sans Détour, un truc comme ça, et ils ont été super réactifs, et il m'a changé immédiatement le livret défectueux. Donc je tiens à leur dire que ils ont été extrêmement réactifs et je salue leur efficacité pour régler ce problème. À part ça, la boîte, je ne suis pas persuadé qu'elle soit très utile parce qu'il n'y a pas grand-chose, si tu veux. Il y a 3 dés de 6 que tu pourrais prendre ailleurs. Et à part ranger le matériel, je ne vois pas pourquoi ils ont utilisé ce format-là, par exemple. Bon, c'est pas très grave, mais il n'y a pas de feuilles prétirées, par exemple. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, c'est pas grave. De quoi parle le jeu? Parce que c'est ça qui vous intéresse, non?
Bah, il serait temps là, hein. L'introduction est longue.
Alors, dans Bimbo, alors c'est des joueuses, hein. Le jeu part du principe que les joueurs de jeux de rôle qu'il y a autour de la table sont des femmes et que le maître de jeu est un homme. Donc les joueuses, on va continuer comme ça, jouent des actrices qui jouent elles-mêmes un rôle dans ce genre de film à petit budget. Donc le maître de jeu, on l'appelle le metteur en scène, c'est lui qui va présenter le scénario, et le scénario, il se présente lui-même sous la forme d'un script qui décrit une suite de scènes, donc de manière extrêmement condensée. Le vocabulaire cinématographique est omniprésent, et l'univers lui-même tourne autour des actrices. Donc contrairement à d'autres jeux de rôle, Bimbo c'est un jeu de compétition, donc il le répète assez régulièrement, il y a une gagnante à la fin du film. Donc c'est assez original pour être mentionné, l'idée c'est que les actrices, elles vont tenter de faire progresser une jauge, qu'on appelle le star system, qui leur permettra d'être des vedettes plus en vue et éventuellement à la fin de gagner plus de pognon que les autres.
Oui, alors qu'on soit bien clair, donc lève toute ambiguïté, ce jeu ne parle absolument pas donc d'une petite voiture jaune qui paraît si fragile sous son drôle de capot, bimbo.
bimbo, pas du tout. C'est...
Mais tu es vieux.
Mais je te remercie d'en avoir parlé. Donc quand tu joues,
Cyril sort de ce corps.
Quand tu joues tes actrices qui elles-mêmes jouent des personnages, elles jouent donc dans un film. Le script c'est un film avec ses scènes, ses clichés, ses crises artistiques et ses effets spéciaux foireux et pauvres. Et tout ça c'est parfaitement assumé et ça va se ressentir tout au long des règles, de la lecture des règles. Dans l'ordre, donc le premier livret ce sont les règles de jeu. Ah, excuse-moi, Steve, tu voulais me demander un truc.
Juste une petite question sur le script. Est-ce que le script, il est connu des joueuses ou est-ce qu'il il reste caché?
Alors, je vais en parler après, mais d'accord. Il peut être connu des joueuses. C'est-à-dire que une des originalités, c'est que le fait que les joueuses peuvent parfaitement connaître le scénario à l'avance.
C'est vraiment intéressant.
Surtout dans le cadre de ce qu'on appelle un remake. C'est-à-dire qu'elles rejouent le même scénario. Donc, le livre 1, c'est les règles. Donc, le livret fait 64 pages. Il commence bien sûr par la création de personnages. Donc, ce personnage que tu crées, c'est l'actrice. Donc ce personnage va devoir écrire son book. Donc son book, c'est sa feuille de personnage. Et elle va commencer par décrire son répertoire. Donc ce répertoire, c'est ce qu'elle sait jouer, en général. Donc c'est souvent une partie de sa vie, parce que c'est pas des actrices qui ont pris vraiment des cours d'acting, si tu veux. C'est des gens, des filles d'un peu partout de l'Amérique, souvent, et qui montent un petit peu à la ville pour faire des films. Donc ce qu'elles savent jouer, c'est un peu ce qui s'est passé dans leur vie. Tu vas écrire ton répertoire sous la forme de phrases un peu courtes. Donc tu dois choisir 5 phrases courtes, comme « Mon père m'emmenait chasser avec lui lorsque j'étais adolescente ». Ou alors « Brenda est une infirmière sexy le jour et une danseuse de pole dance la nuit ». Ok ? Donc le deuxième exemple est évidemment tiré du livre. Donc tu vas décrire ton personnage comme ça. Ensuite, la joueuse va souligner les mots qu'elle trouve importants. Elle va souligner un certain nombre de mots. Chacun de ces mots est une capacité qu'elle va pouvoir utiliser ensuite en jeu lors du lancer de dés. Donc par exemple, tu vas souligner « infirmière sexy ». Pof. Et tu vas lui attribuer une valeur entre 1 et 3. Tu as le droit à une compétence à 3, 2 compétences à 2, 3 compétences à 1, enfin un truc comme ça. Ok ? Donc tu vas souligner les capacités. Donc les mots, si tu veux, les phrases, elles servent un petit peu à enrober les capacités. Mais les capacités, ce que tu vas utiliser vraiment en jeu, c'est ce que tu auras souligné. Au cas où la joueuse est bloquée, par exemple si tu joues avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce système de traits, parce qu'au final c'est des traits, il y a aussi la possibilité de mettre simplement des mots à la place des phrases. Par exemple, belle, agile. Ensuite, tu dois répartir 6 points entre deux caractéristiques, une qui s'appelle sexy et une qui s'appelle macho. Donc la caractéristique sexy, elle définit d'une part ton sex appeal, mais aussi les possibilités que tu as de refaire certaines scènes. D'accord ? En fait, les actrices vont plaider auprès de la production le fait que la scène a été pérave et qu'il faut le refaire. Donc elles vont faire ça avec sexy. Et macho, donc ça détermine à quel point tu as des cojones. Donc ça va te servir par exemple pour tous les jets de dés qui vont permettre d'en imposer, d'utiliser ta force. C'est ça que tu vas utiliser, c'est macho. Mais c'est aussi, et ça sert aussi à déterminer ton endurance, c'est-à-dire la difficulté avec laquelle tu vas être sorti de la scène, blessé en fait, et ta capacité à te surpasser, donc à l'inverse, à réussir des actions un peu plus balèzes. Comme tu as 6 points à répartir entre les deux, c'est à toi de voir si tu veux pouvoir refaire des scènes plus facilement ou si tu veux au contraire pouvoir bien encaisser pendant une scène. Donc c'est assez élégant. Ensuite, tu termines par une phrase culte, une punchline que tu dois placer pendant la partie et qui te permet de gagner du star system. Donc tu sais, c'est le jeu I'll be back de notre ami Schwarzenegger par exemple. Et éventuellement un caprice de star, qui est une sorte de défaut. Par exemple, je veux jamais jouer avec des araignées. Ah, c'est horrible. Donc voilà, c'est tout pour la création de personnages. Donc c'est plutôt simple, c'est efficace, c'est très descriptif. Moi, vous commencez à me connaître, j'aime bien les systèmes de traits. Mais voilà, moi je suis un peu mauvais juge pour ça. Donc le chapitre suivant parle de la gestion de carrière. Donc c'est une compétition. C'est-à-dire que les joueuses jouent donc des actrices dans le même film. Donc c'est sympa, on est copines. Mais ce qu'on veut, c'est montrer notre gueule à l'écran le plus souvent et le mieux possible. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Déjà il faut terminer le film. Par exemple, il y a tout un système de points qui permettent de déterminer si le film que tu as joué est terminé. S'il n'est pas terminé, il sert à rien, il sort pas, donc personne gagne d'argent et les actrices vont avoir du mal à revenir. Il y a beaucoup de méta-jeux.
C'est de la coopération compétitive quoi.
C'est de la coopération compétitive.
On se tire dans les pattes, mais faut pas le faire trop, sinon on va tous perdre.
On n'arrive pas exactement. Si elle se tire trop dans les pattes, le film ne sera jamais terminé.
Je dirais plutôt que c'est de la compétition coopérative. C'est mon ressenti personnel.
Donc t'as un système de points. Donc t'as un système de points.
Tu as tort.
Ah, écoutez-moi. Donc t'as un système de points à terminer, enfin de points à accumuler qui permet de déterminer si t'as terminé le film ou pas. D'accord ? Ça c'est en fonction des actions communes des joueurs. Donc t'as bien compris l'histoire, c'est que si elle se tire trop dans les pattes, malheureusement on peut pas terminer le film. Terminer une scène, placer une punchline, ça apporte des points. Ne pas jouer une scène, tu peux tout à fait dire moi c'est une scène, elle m'emmerde, je suis malade. Hop, tu la joues pas, ça te fait perdre des points. Il y a un autre truc qui te fait perdre des points, c'est lorsqu'on détermine une action, on va faire un tour de table, chacun va devoir parler. Si tu ne parles pas, c'est-à-dire que tu te mets en retrait, malheureusement, et tu as juste quelques secondes pour parler, donner ton action. Et si tu ne le fais pas, tu perds des points de Star System.
Il y a une utilité à ne pas participer à une scène.
Est-ce qu'il y a une utilité ? Bah, des fois, quand tu veux que le film aille plus vite parce que tu veux vraiment faire la scène finale, tu vas être obligé de zapper des scènes.
D'accord, c'est une façon d'accélérer ou de se ménager.
Ouais, tout à fait, exactement. Donc à la fin de la partie de jeu de rôle, les points sont comptés, si c'est positif, le film est terminé. Donc on connaît pas encore la qualité du film, mais au moins on est sûr que c'est terminé. Si tu n'as pas assez de points, c'est un échec général et la production ne revoit pas son argent, ce qui signifie que les futurs films seront plus compliqués à faire et que les actrices qui auront misé de l'argent dans le film sont sur la paille. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'à titre individuel, chaque actrice les actrices vont pouvoir miser de l'argent et agir en tant que productrice associée au film. Donc chaque actrice qui termine une scène gagne du Star System. OK ? Qui termine une scène, c'est-à-dire que si t'es la dernière à parler avant que le maître de jeu, donc le metteur en scène, il dise cut, donc on coupe la scène. Si t'es la dernière à parler, c'est toi qui vas obtenir le Star System. C'est-à-dire que toi, par exemple, François, t'auras combattu le grand méchant, mais si c'est toi qui dis la phrase finale juste avant qu'il dise cut, c'est toi qui vas gagner les points de Star System. D'accord ?
Vipère.
Voilà, t'as bien compris. Alors, on va parler un petit peu du point de destin des actrices, ce qui leur permet de refaire des scènes, justement. Ça s'appelle le coupé, on la refait. Donc, à n'importe quel moment, une joueuse peut décider de rejouer une scène à partir d'où elle veut, soit entièrement, soit moins. Le morceau demandé est rejoué comme s'il n'avait jamais existé, jet de dé compris. C'est-à-dire que ça peut tout à fait te servir à juste refaire un seul jet de dé, par exemple le dernier que tu as fait, ou alors tu dis bah non, toi t'as parlé en dernier, ça m'embête, on va plutôt refaire toute la scène parce qu'elle était très 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 mauvaise. Je vous sens perplexe.
Oui, non, pas de problème.
Non, je trouve ça très intéressant. Voilà. Comme,
donc
comme
le fait que les joueuses connaissent le script, c'est pas un problème. C'est-à-dire que le fait qu'on dise on va refaire cette scène alors qu'on l'a jouée, bah c'est pas un problème parce que c'est indiqué plusieurs fois, les actrices de toute façon sont censées l'avoir lu. Mais les actrices sont censées l'avoir lu, pas forcément les joueuses. Ok ? Donc le fait que quand les joueuses viennent à table et qu'elles connaissent pas le scénario, c'est pas grave, mais les actrices sont censées le connaître. D'où le coupé, on l'a refait. Donc le jeu tourne pas autour de la découverte d'une histoire, comme c'est la découverte ou la création d'une histoire commune, comme c'est souvent le cas en jeu de rôle, mais bien d'une manière de la raconter. Donc on est vraiment dans un paradigme différent. Une fois qu'une scène est tournée, donc éventuellement coupée, mais une fois qu'on est d'accord sur une scène, on passe à la suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ok, donc ça c'est pour les règles de base. Dans le troisième chapitre, parce que je suis toujours dans la description du livret, on va parler de l'opposition. Donc là, c'est là le cœur des règles. En gros, à chaque fois que quelqu'un décrit quelque chose et que quelqu'un d'autre n'est pas d'accord, on fait une opposition. Donc c'est très souvent le maître de jeu, enfin le metteur en scène qui va décrire quelque chose, genre, je sais pas, le train arrive et t'es attaché sur les rails, et la joueuse qui va dire « Oui, mais non, moi les rails, ça m'embête un petit peu de me faire, c'est un peu compliqué les trains. » Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me détacher et de m'enfuir. Donc on n'est pas d'accord sur la finalité de la scène qui est de te faire écraser par le train. Donc on va créer ce qu'on appelle une opposition. Donc le MJ et la joueuse définissent ce qu'ils souhaitent obtenir de l'opposition. Donc moi en tant que metteur en scène, je vais dire je souhaite que le train t'écrase un bras par exemple. Je vais dire tu vas t'échapper, je suis d'accord avec toi, sur cette partie-là, mais il va te blesser sérieusement. Par exemple, il va te rouler sur le bras et ça va être marrant pour le film d'après. Et la joueuse dit c'est pas très drôle de jouer tout le reste du film avec un bras en moins parce qu'au niveau effets spéciaux ça va être chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une opposition, et si moi je gagne, bah, j'aurai mon bras entier et je me serai échappé au dernier moment d'honneur d'une manière extrêmement cinématographique. Ok, on est d'accord. Une fois qu'on a défini ces objectifs-là, on va lancer les dés. Donc comment est-ce qu'on lance les dés ? La joueuse va prendre 3 dés de 6, les 3 dés de 6 faces qu'il y a dans les boîtes, elle va les lancer, elle va prendre le plus élevé, et ensuite elle va ajouter jusqu'à 3 capacités. Par exemple, soit sexy, soit macho, donc ça c'est une capacité, soit les capacités qu'elle a soulignées tout à l'heure sur son book, si vous vous souvenez bien. Donc elle va rajouter ses capacités, et ça va donner une somme, et celui qui fait le meilleur jet l'emporte, évidemment, et son adversaire perd ce qu'on appelle un point d'endurance. Donc si c'est une joueuse, elle est blessée, dans le sens large du terme, c'est-à-dire qu'elle est sortie un petit peu, elle est un petit peu en retrait, et si c'est le maître de jeu qui perd, évidemment, l'opposition est gagnée par la joueuse, et voilà. Ça c'est le côté joueuse, elle va lancer 3 dés de 6. L'adversaire va lancer entre 1 et 3 dés de 10, lui. En fonction du fait qu'il soit figurant, qu'il soit une vedette ou qu'il soit ce qu'on appelle un second rôle. Donc en fonction de son importance dans le film, il va lancer entre 1 et 3 dés. Sauf que ce sont des dés de 10. Les dés de 10 ne sont pas dans la boîte. C'est pas très grave, vous prenez d'autres dés de 10, mais en tout cas, juste pour que vous sachiez, ils sont pas dans la boîte. Donc voilà, on lance. Moi, je vais lancer mes 2 dés de 10, par exemple, si je suis un second rôle du metteur en scène. Toi, tu vas lancer 3 dés de 6 plus tes capacités. Celui qui fait le meilleur réussit.
J'ai une question.
Vas-y.
Pour les figurants où on lance 3 dés 10, est-ce qu'il y a des valeurs fixes à rajouter ?
Oui, il peut aussi y avoir un certain nombre de traits. D'ailleurs, tous les personnages sont définis par des traits. Il y a 3 manières au moins de définir des figurants, de la plus simple à la plus complexe. C'est jamais très complexe, mais tu en as une un peu plus avancée. Et tu peux même les décrire selon une valeur extrêmement simple, même un simple chiffre. Genre, soldat de l'enfer, hop, 4. Donc il va juste lancer ses dés plus 4. Donc c'est vraiment très très simple. À plusieurs endroits, ils disent que les dés servent à pas grand chose. De toute façon, on est là plus pour raconter une histoire. Bon, il y a quand même des règles, mais c'est quand même assez léger comme ça. En tout cas, pour le lancer de dés initial. C'est assez simple, c'est assez rapide. Enfin, le plus compliqué, c'est de s'entendre sur l'objectif, ce qu'on veut obtenir de l'autre. Toutes les oppositions fonctionnent de la même manière, que ce soit une poursuite, un combat, une négociation, un jet de discrétion, etc. Les armes sont cosmétiques, que t'as un lance-flamme ou une dague, ça ne change strictement rien, et ça n'a d'intérêt que narratif pour décrire la scène. Et surtout, il y a un truc important, c'est que les personnages ne peuvent pas mourir avant la dernière scène. Les actrices sont des vedettes, on va quand même pas tuer le personnage des vedettes avant la dernière scène. Par contre, la dernière scène, elles peuvent mourir. Donc je passe rapidement sur le reste, juste sachez que les actrices ont d'autres possibilités d'action, elles peuvent utiliser des plans, Donc elles ont une série de plans qu'elles peuvent utiliser. Elles peuvent utiliser un plan rapproché, par exemple, qui permet d'obtenir des bonus à certaines actions. Genre, tu fais un plan sur les mains de l'actrice qui tente de crocheter une serrure. Hop, t'as des bonus pour réussir le jet de crochetage de serrure, enfin le jet d'opposition. Et un truc amusant aussi, c'est que le plan rapproché, il t'oblige à ne pas tenir compte de tout ce que tu ne vois pas. Donc genre, par exemple, si t'avais des cadenas hyper balèzes derrière, vu que t'as un plan rapproché sur les mains, bah tu les vois pas et donc ils comptent pas dans la difficulté. Tu vois, c'est marrant ça. Voilà, t'as un autre plan qui s'appelle le traveling, qui permet de faire plusieurs actions de suite parce que la caméra elle te suit constamment. T'as un plan large qui permet de voir des choses que tu pourrais pas voir normalement. Ah, par exemple, toi t'es tranquillement en train de te balader et tu demandes un plan large et il y a un grand plan large et on voit qu'il y a un sniper qui est en train de te viser.
Mais ça, y a une ressource pour se payer ces
ouais,
plans.
Ouais, il y a un certain nombre de, tu peux utiliser un nombre de points de plan par scène, enfin par okay. Par film en fait. Et si tu crames tout au début du film, évidemment, tu peux plus t'en servir à la fin. Et t'as un autre plan qui s'appelle le flashback, qui permet de jouer une scène antérieure. Ah, en fait, j'avais un parachute. Et genre, la meuf, elle se jette, tu fais, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais t'as rien, t'as pas de parachute. Et là, elle te dit, bah si, en fait, je dépense mes points, je crée un flashback, et en fait, on voit que j'avais un parachute juste avant, et tu décris une petite scène qui permet de le prouver. Ou par exemple, tu décris un truc comme quoi, je sais pas, moi, t'as pris des cours de parachutisme juste avant, et maintenant, tu portes un parachute en permanence.
Ou alors, tu sais voler, tout simplement.
Alors, non, parce qu'il faut que ça reste quand même... c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que si une joueuse décrit quelque chose qui est ouvertement contre le film, le maître de jeu a un pouvoir spécifique qui s'appelle couper. Genre, c'est de la merde ce que tu viens de faire. C'est assez violent, il décrit, voilà, non, on va refaire la scène, c'est moi qui le décide, et on refait la scène, et dans ce cas-là, tout le monde perd des points de Star System, parce que, des points de Star System, parce que t'as fait de la merde, et en gros, t'as fait perdre du temps à la production, et en plus de ça, comme t'as fait perdre du temps à la production, tu mets des points négatifs, enfin, tu enlèves des points pour déterminer si le film il est réussi ou pas. Donc c'est fait pour te cadrer un petit peu. Bon, il dit quand même de faire attention à pas trop en abuser, mais c'est une manière un petit peu méta de punir les écarts un peu débiles comme ça.
D'accord.
Donc voilà, donc j'aime bien les règles, je disais, moi je les trouve sympas, efficaces, les actrices sont extrêmement favorisées et parfois elles connaissent même le script à l'avance, d'accord ? Comme je vous disais, moi je suis assez curieux, ça me fait envie, mais je suis assez curieux de voir et de comprendre comment ça marche. Par contre, avant d'arriver... Oui, vas-y.
Oui, mais je suis vraiment très intéressé par tous ces aspects méta que je trouve très cohérents avec le sujet du film qui est le cinéma. Et ça me fait beaucoup penser à un autre jeu qui était Brain Soda. Brain Soda qui avait un système, on incarnait des, enfin, on jouait dans des films de série Z complètement fauchés, enfin, finalement, à une thématique pas si éloignée. Et il y avait tout un système de cartes qui permettait de faire des pouvoirs qui ressemblaient un petit peu à ceux que tu décris. Donc, à la fois de couper une scène pour la rejouer, de faire un flashback où on dit, en fait, j'avais un parachute.
Bah, tous les gens qui essaient de faire un truc un peu cinématographique, mais vraiment poussé, ont un peu les mêmes idées, c'est de reprendre les codes du cinéma, quoi.
Oui, mais.
Donc, en fonction de la forme que ça prend. Là, je trouve que la forme, elle est assez simple, ça fonctionne bien. Je connais pas Brain Soda, donc je peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas j'aime bien ce système là.
Effectivement, le cinéma se prête à cette logique méta. Ouais. On avait un autre jeu, c'était Hollywood Party, récemment publié par les 12 singes, qui était un jeu avec beaucoup de narration partagée, et c'est très cohérent parce que on est dans une logique de cinéma où il y a une sorte de côté méta entre être acteur et être joueur. Ouais.
Moi j'avoue que je trouve extrêmement intéressant, bon, tu l'as mentionné, là t'en parles un petit peu, donc t'as mentionné le cas du remake ou le cas du script connu par les joueurs, parce que c'est vrai que c'est une problématique en tant que
joueuse.
Les joueuses, oui, pardon. C'est une problématique à laquelle je me retrouve régulièrement confronté parce que j'ai la tentation, voilà, avec ma table historique. En gros, on a fait jouer tout INS, tout Magna il y a 15 à 20 ans de ça. On était ados, on faisait de la merde, le système marchait pas, on s'entêtait, etc. Et je me disais, est-ce que ça vaudrait le coup de faire rejouer les mêmes scénars avec les mêmes personnes 15 ans après, sachant qu'on sait à peu près tous, on se souvient à peu près tous de ce que ça donnait, mais on joue mieux, on est plus à l'aise avec pas mal de trucs. Est-ce que ça serait intéressant à jouer? Justement, je trouve que c'est une problématique qui est explorée par le jeu. Est-ce que ça peut valoir le coup de...
Ouais. Moi, je vais faire un aveu. Il y a prescription, ça doit faire 7 ans. J'étais en convention et j'ai joué à un jeu de rôle qui était Cats de Clone Hubbard. Et je me suis rendu compte en arrivant que j'avais lu le scénario avant de venir et j'ai passé une super partie. Donc voilà, si l'auteur nous écoute, j'ai été fourbe pendant le scénario. Je n'ai pas osé l'avouer. Mais
tu
joues
un
partie,
chat.
Les chats sont fourbes. Non, mais de toute façon, tout dépend de ce que tu cherches en fait. Est-ce que tu cherches à découvrir des secrets? Est-ce que tu cherches de la puissance? Est-ce que tu cherches à vaincre les autres joueurs? Alors là, pour le coup, c'est fait pour, mais dans une ambiance un petit peu différente. Tu vois, ça dépend de ce que tu cherches. Moi, je trouve que c'est pas gênant à partir du moment où t'es pas dans une quête de puissance avec des combats, des trucs comme ça. Là, l'idée, c'est vraiment de finir le film, en fait. Donc, c'est pas grave qu'elles connaissent le script. Tu vois, ça se base pas sur la découverte, ça se base vraiment sur la manière dont on va kiffer de le raconter, quoi.
Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est
et je pense que tu pourrais, excuse-moi,
de formaliser
pour...
ça. Ouais.
Ouais. Ouais, non, mais c'est une bonne idée. Je pense que on pourrait le faire avec des joueurs qu'on aurait envie, mais c'est un peu con de dire ça, mais disons qui seraient dans cet état d'esprit-là. De se dire, on va essayer de mieux le faire. Tu vois?
Tout à fait.
Mais bon, après, tu peux pas faire. Enfin, tu peux faire une histoire avec un traître, par exemple, mais même si les joueurs le savent, à partir du moment où ils jouent le jeu.
Oui, ou alors à la limite, effectivement, aller jusqu'au bout du truc, mais en même temps, faire un tout petit twist, un tout petit machin, etc.
Ah ouais, avec un double piège, ils connaissent le truc, mais toi, t'as quand même.
T'as changé un petit quelque chose. Mais bon, voilà, mais vraiment, ça m'intéresse que l'auteur de Bimbo ait mis ça en place.
Alors, c'est intéressant, mais il y a quand même un problème, c'est que. Tout ce que je viens de vous dire là, qui a l'air bien kiffant et tout, il faut quand même arriver à le comprendre, il faut quand même arriver à le résumer. C'est pas la première fois que je dis ça dans un jeu d'ailleurs, mais là c'est vrai que c'était assez flagrant. Il a fallu que je passe un peu les longues phrases, les circonvolutions du texte. C'est très littéraire, c'est franchement bordélique. Et à mon sens, encore une fois, c'est moi, c'est bourré d'humour, très moyennement drôle à mon goût. Je vais en reparler un petit peu après. L'ensemble serait très bien pu faire moins de 10 pages. Là ça fait 64 pages. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile. Il y a plein d'encarts. Il y en a un, par exemple, très intéressant, qu'on aime bien, qui s'appelle le Making of et qui donne le point de vue de l'auteur. Hein, on vient de dire qu'on aimait bien ça.
On aime bien.
Voilà, ça donne le point de vue de l'auteur sur divers points de règles qu'il vient de créer. Par contre, c'est pas, par exemple, des notes conceptuelles. C'est plutôt, j'ai trouvé ça dans mon bain. Oh, c'est pas vrai, il a pas dit ça à un moment. Mais j'ai trouvé ça. Ou c'est la première règle que j'ai utilisée. C'est la première règle que j'ai inventée. Elle a bien marché à ce moment-là, moins à ce moment-là. C'était cool. Mais j'ai décidé de la garder quand même. Tu vois, c'est des choses comme ça. T'as plein d'encarts avec des règles aussi, comment on appelle ça, des règles optionnelles, que tu as le droit de cocher. C'est-à-dire que tu la coches dans ton livre de règles en disant on va utiliser cette règle-là si tout le monde est d'accord autour de la table. D'accord? Une manière différente d'utiliser les plans, par exemple, ou des choses comme ça. Mais bon, je trouve que c'est, tu vois, il y en a un petit peu partout. Ça manque, à mon sens, un petit peu de pédagogie. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de remplissages ou de grandes phrases pour arriver à faire 64 pages. Moi, ça m'a un petit peu embêté. Voilà. Mais globalement, quand même, les règles, elles sont vraiment bien. Le livret 2, c'est sur les conseils du MJ. Bon, là, par contre, je me suis un petit peu plus éclaté. Donc, c'est un livret de 64 pages qui est entièrement dédié à la mise en scène. Donc, de loin, pour moi, c'est le meilleur livret. Il y a beaucoup moins de cet humour dont je vais reparler. Et on sent que l'auteur, il cherche vraiment à expliquer le style de jeu et de film. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Là, il dit... Il y a plus de faux-semblants, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus de trucs. Il dit, voilà. Mon jeu, c'est ça. J'ai eu ça en tête. J'avais envie de faire ça. Voilà. Donc, je vais arrêter de blaguer. Voilà comment on fait mon jeu. Donc, t'as plein de conseils sur le style de jeu, sur le style de film, sur ce qu'est la compétition et pourquoi il a voulu créer ce truc-là, sur la mise en scène elle-même via les plans, parce que toi-même, en tant que metteur en scène, naturellement, évidemment, t'as des plans spéciaux et tu vas. Mais c'est pas des trucs qui ont des effets de jeu. C'est une manière de décrire les scènes avec ces plans-là, les effets spéciaux, par exemple. Le budget du film, parce que c'est une composante importante. Typiquement, pour le budget du film, par exemple, tu peux pas faire d'effets spéciaux. C'est-à-dire, si tu tires sur une voiture, elle va pas exploser. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire exploser une voiture. C'est pas stylé. Si un hélicoptère, ce sera un hélicoptère miniature tiré par un fil qui fera pas. Mais c'est pas très stylé. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir sauter dessus. Et on peut pas le faire avec un truc miniature. Donc, dans ce cas-là, le metteur en scène peut demander aux joueuses que leur actrice, que leur personnage mettent leur propre argent, leur propre économie dans la production du film. Donc il va dire par exemple, ah bon, tu veux un vrai hélicoptère, faut quand même qu'on le loue dans un décor à côté, c'est un peu compliqué, donc ça va te coûter $2000 par exemple. Est-ce que tu veux bien le faire? Ouais. Donc elle le note sur le côté. Et c'est important parce que faire participer les joueuses et les actrices en tant que coproductrices, ça leur permet, si le film est réussi, enfin si le film est terminé déjà, ensuite si le film est réussi, non seulement de regagner leur mise, mais de gagner un pourcentage supplémentaire. Donc si tu gagnes par exemple ta mise plus 10%, plus t'as misé, plus tu gagnes, avec le risque que si vous avez tous fait de la merde, enfin toutes fait de la merde, le film se termine pas et que tout le monde perde son pognon. Donc tu vois, il y a cette mécanique là qui est assez, je trouve, assez intéressante.
Et à la fin, on peut jouer une actrice alcoolique dans un film de 12e zone.
Bah ouais, tu peux, parce qu'en fait, si tu réussis pas, t'as de moins en moins d'argent.
Voilà, il y a de moins en moins d'argent.
Ceci dit, bon là, encore une fois, c'est le Jean-Baptiste qui parle avec ses obsessions habituelles. Tu peux tout à fait exporter cette mécanique sur Donjons et Dragons en obligeant les joueurs à parier des XP.
Sur la foule.
Et t'as un intéressement à la fin du scénar, tu gagnes plus d'XP. Ah oui, t'as mis des XP dans l'histoire.
Non, mais moi j'aime beaucoup l'idée en tout cas. Enfin, il y a plein d'idées que je trouve vraiment sympas.
Pour le coup, c'est cohérent dans l'univers du cinéma, mais je vois pas vraiment la justification fictionnelle dans Donjons et Dragons.
Mais parce que Donjons et Dragons, c'est du carton-pâte. Si tu regardes bien, il y a un côté. C'était too much. Il y en a trop.
Donc là, tu adaptes Donjons et Dragons, le film, quoi. C'est ça,
ouais,
ta proposition.
Tout à fait. Voilà. Et les mecs sont tous déguisés en Errol Flynn, tu sais, espèce de collant vert moulburn quand tu joues le ranger. Hein, ah, t'as une petite moustache cirée.
Ça, enfin, tout est méchant, s'appelle Profion.
Ça dépend si t'as de l'argent. Si t'as de l'argent, t'as un vrai costume.
Oui, voilà, tout à fait.
Ça dépend si tu veux participer à la production du film. Le troisième livret, c'est les scripts, donc les scénarios. C'est un petit livret de 32 pages cette fois, qui est bourré d'illustrations, qui est écrit très gros. Donc il présente une douzaine de scripts super basiques, qui tiennent sur une page, maximum deux à chaque fois. C'est pas très original, je pense que tu fais un tour sur Nanarland, tu dois pouvoir trouver l'équivalent assez rapidement. Bon, il y a des trucs marrants, il y a, je sais pas, Dino Sexy 3D... Donc bon, voilà, il y a des trucs sympas quand même, hein. c'est pas mauvais du tout, mais
ça y est, là on a perdu Cobal.
Voilà, Sharknado 24, enfin tu vois, tu dois pouvoir te faire des trucs comme ça. Donc voilà, je vais passer assez rapidement là-dessus. Les scripts, c'est vraiment décrit extrêmement rapidement. Les joueuses sont là, elles font ça, le grand méchant c'est lui, il faut tuer lui. Bon, hein, grossièrement, chaque scène c'est à peu près là elles sont dans une poursuite. Là, le rattrape tel mec. Enfin, tu vois, c'est vraiment.
Oui, alors, mais je veux dire, ça se présente comment? Donc, c'est décrit scène par scène.
Ouais, en fait, t'as genre 6 scènes, on va dire. Ta première scène, c'est l'ouverture. Elles sont à tel endroit, elles font ça. Deuxième scène, c'est, la poursuite. Elles font ça, elles sont là. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Après, libre à toi pendant le déroulé du film, si tu veux, de rajouter des scènes, mais a priori c'est prévu pour que tu finisses le film, donc les scènes devraient se dérouler à peu près comme ça. Donc il y a une idée de bulle de gameplay dont je reparlerai probablement à un autre moment, mais que j'aime bien, qui est de dire voilà, on rentre dans une scène, il y a une mise en situation, il y a une fin de scène, voilà, vous faites ce que vous voulez au milieu, tu vois. Bon, par contre je suis pas sûr que ce soit pas trop linéaire, voilà, il y a ce problème là aussi à voir. Surtout, enfin, si tu connais déjà le script, bon,
parce que les joueuses, donc, elles doivent improviser à partir de ce descriptif.
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Vous sautez en avion. Vous devez sauter en avion. En dessous de vous, il y a un volcan. Donc vous sautez. Alors, les autres font OK. Je suis en l'air. D'ailleurs, c'était la vidéo qu'il y a eu sur Trick Track qui était comme ça. OK. Qu'est-ce que vous faites en l'air? Bah OK. Moi, je me mets dans telle position. Je fais ça. OK. D'un coup, d'un autre avion, il y a des tas de gars qui sautent et qui commencent à vous tirer dessus. Qu'est-ce que vous faites? Et tu vois, ils continuent comme ça. Ah bah moi je me mets dans telle position, je fais ci, je fais ça. La vidéo sur Trick Track est très intéressante d'ailleurs. Ils font une vidéo qui doit durer je sais pas combien, à peu près 2 heures, sur une partie complète avec Monsieur Fall et tout. Enfin, ça donne vachement envie, c'est vachement intéressant. Avec Grégory justement en metteur en scène. Ok, donc je vous ai décrit un petit peu les bouquins, les trois livrets. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, ma conclusion. Je vais faire juste un petit moment sur le thème du jeu. Donc ça... Sachant que ça pouvait être un petit peu polémique, l'auteur a écrit 2 paragraphes d'intention qui expliquent, en gros, qu'il voulait faire jouer des femmes fortes, évoluant dans un environnement compétitif et sachant s'en sortir par tous les moyens. Donc des paragraphes d'intention que moi j'ai trouvé extrêmement bien écrits et très intéressants. Le problème, c'est que ces 2 paragraphes, ils sont soit au milieu du jeu, soit à la dernière page. Vraiment la dernière page du 3e bouquin, quoi. Genre, j'ai fait ce jeu-là, c'est un jeu féministe, les femmes sont fortes, elles ne s'en laissent pas compter par les mecs, etc. Ce que je veux vraiment bien croire. Par contre, c'est contredit par tout le reste. C'est-à-dire que pendant tout le jeu, à la lecture, les actrices sont considérées comme des abruties. Je parle pas des joueuses, je parle des actrices. Donc c'est des filles stupides qui sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre que de passer sous la table et de se battre mesquinement pour être la dernière à passer à l'image, hein, grossièrement.
Mais c'est l'avis du metteur en scène, ça.
C'est l'avis du metteur en scène, j'ai pas dit que c'était l'avis de l'auteur. Je te dis simplement que
oui, bien sûr,
y a
oui.
2 paragraphes qui t'expliquent que c'est un jeu féministe. Et t'as 3 livrets de jeu qui t'expliquent par exemple que le coupé on l'a refait, il se présente sous la forme de l'actrice qui va se plaindre auprès de la production et qui ensuite passe sous la table pour y faire différentes activités. Et c'est pas dit une fois, c'est pas dit 2 fois, c'est pas dit 3 fois, c'est dit régulièrement.
Et est-ce qu'il y a énormément de détails sur les activités sous la table? Parce que je sais, enfin, moi je suis un grand lecteur, j'aime beaucoup me documenter, je m'interroge.
Donc, Donc c'est soit elles font ça, soit elles sont un petit peu, elles sont stupides, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises on leur explique que c'est pas, que bon, elles ont de l'argent mais c'est pas la peine de compter parce que compter jusqu'à 3, oulala, c'est compliqué. Alors moi je me suis ouvert un petit peu de ça à l'auteur lui-même, il m'assure que c'est de l'humour, que c'est volontairement outrancier, ce que je veux bien croire parce que c'est outrancier, et que selon lui ça ne gêne pas les joueuses, a priori. Moi je vais le dire, hein, moi ça m'a gêné, moi Yannick, hein, en tant qu'homme masculin, hein, de sexe.
En tant que joueuse.
En tant que joueuse de sexe masculin, moi, la lecture, ça m'a gêné beaucoup et ça m'a gêné souvent. Donc, selon moi, c'est encore une fois de l'humour que je vais appeler de l'humour dominant, qui est toujours le même, qui est toujours contre les femmes, qui sont jugées idiotes. Donc, moi, ça me fait pas très rire depuis longtemps. J'aurais trouvé, par exemple, plus intéressant, plus audacieux de se moquer du producteur, par exemple, d'expliquer qu'effectivement, les actrices sont des femmes fortes, et donc, si elles le font, elles le font parce qu'elles jouent très bien la comédie et qu'elles le font pour manipuler ces abrutis de bonhommes. Tu vois, de renverser un petit peu les rôles, ou disons de mettre un accent différent. Moi, ça m'aurait fait un petit peu marré, ouais.
Moi, ce que j'aurais trouvé audacieux, ça aurait été de se moquer du producteur qui est l'éditeur, sans détour, qui a fait la commande sur le thème faire un jeu sur les bimbos.
Ouais, voilà, comme on est dans un jeu qui est très méta, moi, ça, j'aurais trouvé ça marrant aussi, tu vois. Là, je trouve que c'est toujours le même humour, quoi, tu vois. Oui.
Non, mais ça me faisait, parce que tu disais, l'idée que tu avançais me rappelait une série qui s'appelait Papa Schultz.
Ouais, pourquoi?
Hogan Zero. Ben, pour le côté, imaginez finalement un metteur en scène qui se croit très malin et très, très en contrôle de sa production, voilà, avec des actrices très bêtes, alors qu'en fait les actrices sont très malines.
Et très malines,
et on joue. Et on joue et en fait manipule.
On renverse la situation. Ça, j'aurais trouvé ça. Exactement, c'est exactement ça.
Mais à quel moment il y a un gros Allemand à moustache?
franchement, doit bien y avoir un.
Franchement, sérieusement, une campagne de bimbo en se disant, ok, le metteur en scène c'est le colonel Klink. Et Schultz, donc le gros moustachu finalement, est l'acteur récurrent qui joue toujours le méchant du film, ouais, qui est censé toujours être le méchant super malin, alors qu'en fait l'acteur est complètement teubé.
Ouais,
il y aurait moyen d'en faire quelque chose.
D'ailleurs, juste pour préciser, c'est un jeu qui ne se joue qu'en campagne. C'est-à-dire toute la gestion du Star System, elle se fait de film en film. Donc, c'est rare. Tu peux faire un one shot. Mais c'est quand même plus intéressant si tu le joues dans l'esprit du jeu, quand même. Tu vois. Donc, je disais que ça m'avait gêné. Bon, là, une fois que t'as lu pour la énième fois qu'il y avait un pantalon baissé, moi, j'avoue que ça m'a un peu saoulé. Donc, je vais partir du principe que c'est une maladresse, excuse-moi si tu m'écoutes, et je vais parler du jeu vraiment en lui-même, d'accord ? On passe un petit peu cette partie-là, je voulais juste en parler un petit peu, et on va parler du jeu en lui-même. Moi, j'ai une impression en demi-teinte, même si vous avez l'impression que je l'ai bien vendu, j'ai quand même une impression en demi-teinte. Les règles de base, elles sont super simples, elles sont très fonctionnelles. Même s'il faut lancer des dés 10, c'est qu'il n'y en a pas dans la boîte, étrangement. Mais il faut arriver à les extraire de l'ensemble des petits points, des trucs à ajouter, des règles additionnelles. Là, je vous ai extrait vraiment le cœur. Il y a plein de petits points autour de ça qui modifient encore. Les conseils sont vraiment bien, là-dessus, j'ai rien à dire, c'est super. Les scripts sont pas extraordinaires, mais c'est-à-dire que je pense que ça aurait pu être mis à la fin du bouquin sur les conseils de jeu sans aucun problème, c'est-à-dire que c'était pas forcément utile de faire un troisième livret. Bon, ils sont pas extraordinaires, mais un peu comme les films, hein, si tu veux,
c'est des scénars de série Z.
Ouais, c'est des scénars de série Z. Sexy Dino 3D, bon, ça a du sens, hein, mais bon, voilà. Le côté cinéma est extrêmement bien rendu. Les diverses originalités, elles sont bienvenues, et je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne à table. Mais curieux dans le bon sens du terme. Je suis étonné, c'est-à-dire que j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Moi, je suis pas hyper convaincu comme ça, mais il y a tellement de bonnes idées que j'ai envie d'essayer, quoi. Donc, Bimbo, c'est par nature un jeu qui est donc à jouer en campagne. Il y a pas mal de règles qui font référence au Star System, je disais, et qui se jouent donc surtout en dehors des films. T'as vraiment ces deux parties entre je joue un film, j'essaie de le terminer, et je m'occupe de mon Star System parce que c'est moi la meilleure à table. Ok? À plusieurs moments, c'est vraiment mis en avant, et t'as même une très grosse partie du jeu qui tourne autour de ça. Donc à mon avis, c'est un très bon jeu, c'est un peu fouillis, c'est bourré de bonnes intentions, à mon sens développé un petit peu rapidement, et par contre c'est quand même, enfin ça a l'air en tout cas extrêmement fun, et chaque fois que j'ai vu ou entendu parler d'une partie, ça s'est quand même très très bien passé. Donc voilà, curieux pour le moment.
Ok,
vous avez des questions?
Ouais. Non, mais on va la refaire là.
coupez, on refait tout. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est maintenant la fin de cet épisode de Radio Rollis. Donc merci à tous de nous avoir écoutés.
Au revoir. Salut. Au revoir.
Salut.
Au revoir. J'ai parlé en dernier. C'est moi.